Nous sommes pour l'heure en compagnie d'Esther Eboyan, qui a récemment publié « Comme un dimanche d'août à Burgaz » aux éditions Empreinte. Un recueil de nouvelles qui nous raconte de belles histoires de vie, où sur un ton tragicomique, l'exil tient le premier rôle. Alors l'exil, Esther Eboyan, est-ce que c'est le moteur de votre écriture ?
Oui, certainement. C'est quelque chose qui fait partie de moi et je suis en exil partout où je suis.
Ah ben voilà qui est dit. Alors, si vous deviez donner une définition de l'exil, vous diriez quoi?
Ah, c'est quelque chose qu'on nous impose au départ. Et puis bien entendu, je veux dire une banalité, l'exil, on peut se le forger soi-même. Donc, il y a ces deux aspects.
Vous parlez d'un exil intérieur ?
Oui, d'un exil intérieur, ou bien l'exil qu'on s'impose sans que les autres interviennent, quand on s'en va, tout seul. On est en exil, forcément.
Alors, sauf que vous, après, vous avez choisi de partir parfois, mais votre premier exil a été imposé.
Ah oui, le deuxième aussi, d'ailleurs. Mon premier exil, départ d'Istanbul pour l'Allemagne, j'avais 8 ans. Et ensuite, départ de l'Allemagne pour Paris, j'avais 10 ans. Donc ce sont deux exils que je n'ai absolument pas voulu vivre et qui ont été très très douloureux.
La mémoire aussi, c'est important pour l'écriture, car on ne peut pas écrire sans mémoire.
C'est certain, oui.
Et vous avez une excellente mémoire, en jugé par votre dernier livre.
Pour le moment, oui.
Vous avez l'impression que ça ne va pas durer ?
On ne sait jamais.
En écrivant, vous faites comme Supervielle, que vous citez d'ailleurs en exergue dans votre livre, « Je compte mes mois dispersés que je rassemble en toute hâte ». Alors, des mois dispersés, vous en avez un paquet ?
C'est certain, oui. J'ai l'impression que j'écris pour contrôler un rythme, pour libérer un rythme. Mais le rythme, il se disperse de lui-même et j'essaie de rassembler tout ça dans des mots.
Vous avez l'impression que ça fonctionne ?
De manière temporaire, oui.
Bon, voilà qui est bien. Moi, je me demandais, en lisant ce dimanche d'août à Burgaz, si l'écriture vous permettait pas d'exorciser la double peine, comme vous le dites d'ailleurs, de l'exil, parce que vous dites que dans l'exil, on meurt 2 fois. Alors, est-ce que écrire, c'est peut-être éviter peut-être de mourir une 3e fois ?
C'est pour mieux vivre, disons. Voilà. Maintenant, éviter de mourir, bon, ça on ne sait pas.
Certes, mais dans l'écriture, je veux dire.
Oui, même dans l'écriture.
Est-ce que l'exil, c'est réparable dans une vie ?
Oui, bien sûr. On essaie toujours de se dépasser, de faire autrement. Même s'il reste toujours une pointe de douleur, heureusement que c'est dépassable, oui.
Comment on fait pour faire autrement ?
On apprend mieux que les autres et plus vite que les autres.
Oui, l'idée d'être meilleur.
Pour comprendre comment ça fonctionne.
Vous avez l'impression d'avoir compris comment ça fonctionne ?
Parfois, oui. Il reste encore des choses cachées.
Il faut toute une vie pour comprendre.
Il faut toute une vie, peut-être plusieurs vies, mais bon, ça, je n'en sais rien.
Vous vous souvenez quand, petite fille, vous avez débarqué en Allemagne pour rejoindre votre père ?
Oui, je me souviens du train.
Donc, vous avez pris le train d'Istanbul jusqu'où ?
Jusqu'à Munich. Je me souviens d'être descendue du train et d'avoir retrouvé mon père. Et c'est tout ce qui comptait à l'époque, retrouver mon père, que je n'avais pas vu depuis 2 ans.
Vous aviez quel âge ?
Je suis arrivée, j'avais 8 ans, donc mon père est parti, j'en avais 6.
D'accord, donc de 0 à 8 ans, vous êtes à Istanbul. Et après, vous restez en Allemagne combien de temps ?
2 ans.
D'accord, le temps de faire une petite fille allemande.
Voilà.
Et hop.
Le temps de se demander comment on fait pour écrire en allemand.
Oui, c'est compliqué.
Très compliqué, oui.
Effectivement. Alors, pour en revenir à votre livre, Comme un dimanche d'août à Burgaz, alors compte tenu du titre, on imagine que ça va commencer en Turquie, évidemment, mais ça commence pas du tout en Turquie, ça commence à Acapulco, sur un air de Louis Armstrong. Alors, pourquoi ce jeu de lieux comme ça qui...
Parce que j'aime bien travailler le décalage.
Ah ben ça, c'est réussi, là.
Oui. Donc, j'ai déplacé une histoire d'exil. Il s'agit d'un couple de touristes, justement, à Acapulco. Et la narratrice pense à une autre touriste qui, elle, est allée visiter la Louisiane. Et ce sont deux personnages féminins qui sont en décalage par rapport au lieu où ils sont et à l'histoire qui se déroule.
Alors je l'affirme, Esther ne savait pas que François Hyde allait faire sa chronique sur les touristes, et vice-versa d'ailleurs. Alors des explications sur le choix du titre, Comme un dimanche d'août à Burgaz, ça renvoie à quoi pour vous ?
Burgaz, c'est une île qui fait partie des îles des Princes, tout près d'Istanbul. Et c'est un lieu qui était un lieu de fête où les jeunes gens dans les années 50, 60 allaient le dimanche, le samedi ou le dimanche, pour faire des pique-niques, pour aller dans des tavernes, pour danser. C'est surtout lié à l'histoire de mes parents. Donc, ce retour en arrière, pour moi, c'est toujours un retour en arrière qui, bien sûr, inclut, interroge le passé de mes parents. Et c'était une façon de se remémorer. Donc, ce n'est pas exactement un dimanche d'août à Burgaz, c'est comme un dimanche d'août à Burgaz.
Mmh, oui, c'est pas n'importe ouais. quel dimanche voilà. à Burgaz. À quoi ressemblait la Turquie de votre enfance ?
Très bruyante, très lumineuse. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens globalement.
Vous habitiez dans quel quartier ?
Un quartier d'Istanbul qui s'appelait Harbiye. C'est tout près de Taksim, qu'on voit parfois à la télévision.
Oui, effectivement, c'est un endroit agréable. Mais alors moi, je me demandais si l'enfance à Istanbul d'une petite fille d'origine arménienne n'a pas été facile tous les jours. C'est pas une position au départ, c'est pas la position la plus simple.
Quand on est enfant, on se rend pas toujours compte qu'on est dans une position pas très facile. Donc moi j'allais à l'école, mon école était adjacente à mon logement. C'était un périmètre vraiment très très agréable pour moi, même si je n'ai jamais aimé l'école. Donc je savais que j'appartenais à une autre langue, que je parlais une autre langue que la langue turque. Mais les choses les plus douloureuses, c'était vraiment le départ des parents, enfin de mon père pour moi.
Mmh. Oui, c'est le cercle familial qui prime quand on est enfant.
Oui, oui, oui.
Mais ça veut donc dire aussi qu'à l'école, les autres enfants, vos amis, ne faisaient pas de différence entre les enfants d'origine arménienne et les autres.
Disons que c'était une école bilingue, c'était une école arménienne.
Ah, voilà, c'est ça la pièce qui manquait dans le
oui.
puzzle.
C'est une école arménienne.
C'est pour ça que vous étiez bien à l'aise. Quels sont aujourd'hui vos rapports avec Istanbul ?
Quand je retourne à Istanbul, c'est toujours très très émouvant pour moi. Donc j'ai du mal.
Donc vous n'y retournez pas souvent ? Vous n'avez pas envie de vous faire mal ?
Voilà. J'y vais juste quand je suis vraiment obligée ou quand j'ai vraiment envie.
D'accord. Parce que sinon, c'est la dépression assurée.
Peut-être pas, mais c'est sûr que je vais pleurer pendant les deux premiers jours.
Ah oui, à ce point-là, quand
ah
même,
oui.
ça vous fait...
Oui, oui, ça remonte à la surface, donc je préfère rester au loin.
Il y a une nostalgie dans tout ça ?
C'est pas une nostalgie, en fait. C'est des choses certainement pas résolues, pas exprimées, et qui font surface.
Et qui font surface plus facilement, dans votre cas, à cause du lieu qui est le déclencheur ?
Ah oui, oui.
Alors d'ailleurs, vous n'avez pas écouté l'oncle Serco qui vous a dit un jour à Marseille de ne jamais regarder en arrière.
Non.
Pour écrire, vous ne faites que regarder en arrière.
C'est vrai.
Vous auriez peut-être dû.
Mais Je mélange beaucoup aussi, donc je mélange les temps, les époques. Je me projette quand même.
Oui, tout à fait. Bah, c'est l'écriture. Oui. C'est de l'écriture. Alors, on l'a dit tout à l'heure, vous avez vécu deux immigrations successives, l'Allemagne, puis après la France. Et là, il vous a fallu vous réadapter à nouveau. Donc ça, ça vous a paru.
Ah oui, il a fallu que j'apprenne à écrire en français. Et ça, c'était encore plus difficile qu'apprendre à écrire en allemand. Parce que franchement, les règles et les exceptions, j'en ai soupé.
C'est pour ça que vous êtes devenu écrivain. Vous avez tellement travaillé.
Peut-être.
Parce que donc, si on résume, vous parlez arménien à la maison. À l'école ou dans la rue, vous parlez turc. Ensuite, vous partez en Allemagne, vous apprenez l'allemand. Et vous arrivez en France, vous apprenez le français.
Oui, j'étais bien obligée. Je ne comprenais rien.
Certes.
Donc, j'ai dû apprendre.
Donc, en fait, finalement, aujourd'hui, vous parlez combien de langues ?
On peut ajouter l'anglais, mais les deux langues que je domine le plus sont quand même le français et l'anglais.
L'anglais, vous en avez même fait un métier.
Exact, j'ai voulu m'exiler dans une autre langue.
Oui, mais et celui-là, un exil choisi.
Oui, oui.
Voilà, ça change.
C'est ce que je voulais en fait.
dans votre livre, à un moment, vous dites que vous avez un sentiment de honte quand vous entendez votre famille parler le français avec un accent turc. Est-ce que l'histoire des accents, c'est important dans la vie d'un enfant ?
Ah oui. C'est-à-dire que quand on se promène ou quand on va dans des administrations et que les parents ont un accent, quand on est enfant, plus tard quand on est un adolescent, on est dans une sorte de gêne parce qu'il y a le regard de l'autre et l'écoute de l'autre qui ne veut absolument pas écouter ni regarder. Donc, on se sent complètement démuni. Et ça, c'est vrai, c'était une souffrance, mais comme je le dis, j'ai eu honte d'avoir eu honte. Parce que je n'aurais jamais dû avoir honte, parce que c'était comme ça. On se déplace d'un lieu à un autre et forcément, on ne va pas attraper l'accent du pays comme ça, par miracle, surtout pour des gens qui sont d'un certain âge, ça ne s'attrape pas. Donc, les gens qui arrivent dans des pays où ils sont obligés d'apprendre la langue, ils gardent leur accent jusqu'à la fin.
Mais ça, au-delà de l'accent, ça pose la question de l'étrange étranger. C'est-à-dire que voilà, c'est être étranger qui est plus difficile que d'avoir un accent. Et l'accent, on peut pas se cacher derrière.
Non, on
affiche
pas
qu'on est étranger. C'est peut-être ça qui est le plus douloureux.
Bien sûr, c'est dur. Mais c'est dur partout.
Oui, non, pas qu'en France.
oui, c'est dur partout.
C'est évident. Sauf que quand vous êtes parti aux États-Unis, vous l'avez peut-être pas trouvé si dur que ça.
À l'époque, on me prenait pour une Iranienne parce que c'était l'époque des Américains qui étaient en otage. Et donc là, j'ai subi une sorte non pas de discrimination, parce que c'était quand même très léger, mais une sorte de regard. Cette Iranienne, que fait-elle ici ? Donc voilà, il fallait que je mette les choses au clair, je n'étais pas une Iranienne. J'ai surtout vécu ça dans un salon de coiffure, en fait. J'ai horreur des salons de coiffure. Et ça m'a vraiment confirmé dans mon idée qu'il ne fallait pas que je retourne dans les salons de coiffure. Parce que là, elle m'a prise pour une Iranienne, elle m'a maltraitée. Et j'ai pensé que c'était injuste.
Ça veut dire que partout où vous passez, il faut vous expliquer et dire qui vous êtes.
Exactement.
Ça, c'est fatigant.
Oui.
Quel sens a pour vous le concept de langue maternelle, du coup, puisque vous avez eu plusieurs langues maternelles ?
Qu'est-ce que c'est qu'une langue maternelle ?
Voilà.
Bon, je ne sais pas si je peux répondre à cette question.
C'est l'arménien, définitivement ?
Oui, je suppose, parce que je continue de parler ça avec ma mère, oui.
Voilà, donc là, bah voilà, la réponse est là. Ouais. Vous évoquez aussi le silence des femmes d'Orient, celui des femmes de votre famille. Est-ce que ça, vous avez trouvé ça difficile de grandir dans le silence ?
Ah oui, moi j'ai horreur du silence, de ce silence-là. C'est-à-dire le silence qu'on impose aux gens, ou que les gens s'imposent à eux-mêmes, parce qu'ils ont peur que ça dégénère. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la parole aussi, c'est pour ça que j'écris.
C'est pour donner... rompre ce silence.
Oui, pour rompre ce silence, et je ne m'accommode pas des silences.
L'Arménie de vos origines, elle a une place aujourd'hui dans votre vie?
L'Arménie de mes origines. Quand vous dites l'Arménie, vous pensez...
À la culture.
À la culture. Oui, bien entendu. Ce n'est pas quelque chose dont on peut se défaire. Bien entendu, c'est là et forcément ça ressort à plusieurs niveaux.
Vous êtes toujours de passage, dites-vous. Est-ce que c'est possible dans une vie d'être toujours de passage?
Oui.
Vous le prouvez donc.
Oui, je suis toujours de passage. Et là où je suis le mieux, c'est dans les trains et les avions.
Bon, et d'ailleurs, dans le studio, vous êtes de passage aussi.
C'est bien.
La distance que donne l'autodérision et l'humour, c'est un peu une bouée de sauvetage pour vous, parce qu'on l'a pas dit, mais ce livre est extrêmement... je dirais pas, c'est pas désopilant, mais il y a vraiment des moments où on rit. On devrait peut-être pas, mais on rit quand même.
Si, il faut rire.
Voilà.
Parce que faut pas s'enfoncer dans le mélodrame. La tragédie est là, et bien on fait avec, et il faut essayer de la contourner, de créer autre chose. Il faut créer constamment, il faut se recréer, et créer des occasions, et recréer son envie d'être.
Vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir recollé les morceaux de vos identités explosées entre tous les pays qu'on a cités?
Recoller? Oui, certainement. Je suis beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 30 ans, 40 ans.
Et peut-être grâce à l'écriture?
Oui, je pense que j'avais besoin de l'écriture, oui.
Et pour terminer, partir pour l'inconnu, c'est le moteur de votre vie, ça n'a pas changé?
Non, ça n'a pas changé. Je suis toujours prête à partir.
Après l'émission, vous partez où?
Dans ma tête, je vais partir très loin. Dans la pratique, je vais rentrer sur Paris.
Oui, bon là, c'est un peu moins exotique, effectivement. Mais, mais vous vous êtes peut-être un petit peu plus sédentarisé maintenant.
Dans la pratique, oui.
J'ai bien compris. Donc, dans le prochain livre, on verra où vous partez dans votre tête. Donc, Esther et Boyan, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Comme un dimanche d'août à Burgaz », publié aux éditions Empreintes.
Merci.